Alien et les garçons épisode 9. Bienvenue dans Toi Monde Meilleur.
Bonjour.
Bonjour.
Attendez, je la fais classique. Bienvenue à bord d'Alien et les garçons épisode 9. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
C'était une entrée en matière un petit peu pas très orthodoxe.
Très sèche.
Comment ça va?
Ça va.
Ouais, malgré ce départ, faux départ, un petit peu, tu vois, on sait pas ce qui s'est passé.
Non, ça va pas mal, on revient de Nantes là.
Ouais, vous m'aviez manqué un peu, hein. Ça fait que deux semaines, j'ai l'impression que ça fait des mois.
Qu'on rentre de Nantes?
Ouais, qu'on a enregistré un vrai épisode au château.
Il s'est passé tellement de choses dans nos vies, vous pouvez pas savoir. Et là, le château est tout froid, on rentre de Nantes, on est tout froid. Moi, je suis fatigué.
Ouais,
on a des bonnets, on a des écharpes, on a des doudounes, des anoraks, des feux de camp,
des sardines, des sarbacanes.
Qu'on appelle ça les trucs de survie là.
Des couvertures
de survie, c'est putain, le mot le plus simple du monde.
Couverture. Ça nous change pas mal parce que d'habitude on est à poil.
Oui, c'est vrai. Et là on est.
Enfin, on est extrêmement habillé là.
Mais t'as bien dit, en plus on enregistre le matin quasi.
Ouais, putain,
c'est rare. Mais...
Il est 6h du matin à peu près. Non, on exagère. Il est au début d'après-midi en fait, mais simplement toi tu te lèves très tard, donc tu es troublé.
Pour moi c'est le matin.
Pour moi c'est le soir. Là. Je vais me coucher juste après le podcast. C'est super de se retrouver. Donc oui, on s'est remis des utopiales ou pas? Moi non. Moi bof. Vous oui?
On s'est remis.
Ouais, moi pas. Okay, très bien.
Complètement.
Et donc du coup on se retrouve enfin pour faire un épisode classique.
Un épisode canon.
Un épisode canon, ça veut
Parce
dire
que...
quoi?
Bah, dans le canon de tous les épisodes.
Ah waouh. Wow, putain, j'avais pas le terme tout de suite.
Sorry about that.
Pour moi, canon, c'est un truc qui se boit, mais
c'est un truc qui cache des boulets.
Est-ce que, par exemple, justement, vu que c'est un épisode canon, comme tu dis, Florian, est-ce que tu nous réexpliquerais pas, parce que moi, ça fait longtemps, j'ai un peu oublié, quel était le concept d'Alien et les garçons, s'il vous plaît.
Alors, Alien et les garçons, c'est quoi? C'est un thème que l'on se donne.
Pourquoi tu le dis comme une putain de vendeuse de poissons?
Parce que c'est devenu une habitude pour moi.
Hey,
D'ailleurs, on avait dit que j'aurais un générique, mais bon, je suis un peu.
Non, ça, tu peux t'asseoir dessus.
Ouais, on avait dit aussi que tu serais payé, ça aussi, tu peux t'asseoir dessus.
Donc, Alien et les garçons, c'est un thème que l'on se donne. On écrit trois mondes ou trois univers à propos de ce thème et on les découvre tous ensemble autour d'un verre dans le château.
Je sais pas, dans les premiers épisodes de l'Explicator, c'était toujours assez compliqué, c'était assez long et maintenant j'ai l'impression que tu arrives à expliquer en 4 secondes et je me demande si c'est parce que tu t'es amélioré ou si c'est parce que le podcast est devenu moins bon et plus facile à expliquer.
Non, je pense qu'il a appris le truc par cœur et du coup je pense qu'il faut le mettre en danger et la prochaine fois on lui demandera d'expliquer d'autres trucs.
Explique-le avec un accent allemand.
Non mais voilà, là c'est trop facile et du coup même tu le dis un peu comme ça et du coup ça manque de vie. Je pense qu'on va challenger l'épisode 10, on te challenge, prépare-toi.
Oh ouais. Merde.
Parce que tu parles encore de SF dans l'explication. Tu viens, t'as dit SF ou pas?
Non,
t'as juste dit trois mondes. On fait trois mondes.
Ouais, c'est vrai. En fait, tu t'en bats les couilles complet. Quoi.
On écrit et puis on écoute et puis fuck.
Écoute, on va te mettre un blâme. Deuxième blâme, t'es licencié.
Non. Ok, d'accord. Moi, ça me va.
Toi, tu veux juste te faire virer en fait.
Ça
fait 9 épisodes que t'expliques mal pour te faire sortir du truc.
La prochaine fois, je vous expliquerai le big deal.
Ça va être intéressant. Donc oui, donc on nous a donné un thème.
Tout à fait.
Pour aujourd'hui, un thème. Le thème qui est.
Je me rappelle pas.
Langue.
Ça, ouais.
Ah, donc toi, t'as écrit un truc sur le langage plus que la langue.
Non, alors, première question dans l'introduction. Vu que le thème est langue, quelle est la différence entre le langage et la langue?
Le langage, on l'a pas forcément dans la bouche. Non. Je sais pas. Il y a vraiment une différence?
Il y a vraiment une différence.
Je pense que la langue. Le langage, c'est en général, c'est l'espèce d'idée de langue. Et les langues, il y a différentes langues. Le langage, c'est le concept de langage. C'est quelque chose qui est immatériel. La langue, c'est vraiment les mots qui font le langage.
Ouais, le langage, c'est la technique c'est la technique pour parler une langue, en fait. Enfin, c'est la technique pour t'exprimer, c'est la technique pour parler. Tu as des langages, même le langage informatique.
D'accord,
okay.
C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais je vais
technique
présenter,
de programmation.
Tu peux avoir du langage corporel, ce genre de choses, alors qu'une langue, tu peux avoir une langue corporelle.
C'est bien une technique pour. Non, t'as pas de langue,
bon exemple. Celle dans ta bouche, la langue corporelle de la bouche.
Non, mais en vrai, c'est ça, c'est le processus pour communiquer. Effectivement, tu peux avoir un langage corporel, un langage informatique, un langage je ne sais quoi. Dont les langues, et après les langues, c'est effectivement c'est ce qu'on parle à l'échelle d'un pays, en fait. Une langue.
D'une région, genre de chose.
Ou d'une région.
La langue et les langages, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, on vous remercie, notre auditeur qui nous a donné ce thème, qui est Vittorio. Vittorio, grazie mille. Merci beaucoup, Vittorio. Non, vraiment super thème et je pense qu'on va avoir des jolies chroniques parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. En effet, on lit des livres sur ça déjà. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois pour ceux qui écoutent un peu, on est tous les trois adorés Arrival, le film. J'ai oublié le réalisateur.
Denis Villeneuve.
C'est un garçon comme ce...
Denis Villeneuve.
On ne s'entend pas, mais c'est un garçon, c'est un homme.
Et c'est très très intéressant.
Voilà, on va s'en parler un peu plus en détail. De toute façon, je pense qu'on va avoir plein de références à faire, plein de choses. Vous allez voir, ça va être un épisode vraiment passionnant, je pense. Ce sera un épisode pour les plus intelligents de nos auditeurs. Si vous n'écoutez pas jusqu'au bout, c'est que vous êtes un gros con. Désolé. Voilà, c'est dit. C'est comme ça qu'on traite sa communauté. Okay.
Et elle nous le rend bien. Ça, je peux te le dire.
Alors, ok, on a expliqué, on a donné le thème et on va pas attaquer tout de suite. On va d'abord se faire notre traditionnel portrait chinois.
Faisons.
Mais cette fois, on se le fait ?
Allez.
Ok. On va se faire le portrait chinois, du coup, tant pis. Tant pis pour vous. On va pas se faire le portrait chinois classique. Je vais plutôt vous. D'habitude, on se demande quel est notre animal totem, etc. Aujourd'hui, on va plutôt se demander si vous pouviez avoir une soirée à discuter avec n'importe qui, de n'importe quelle époque, qui serait cette personne ?
Waouh !
Damn, Daniel !
Alors, Florian est circonspect et Vic s'est endormi.
Non, j'essaie de réfléchir. Là, ça fuse.
Ça fuse,
mais je la trouve pas. Parce qu'il y a plein de gens.
Il y a du monde.
Ouais,
tu peux commencer par sélectionner une moitié de gens.
Ouais. Et puis après l'autre moitié.
Tu divises comme ça et je pense que d'ici 2024, on est bon.
Non, je réfléchis. Laisse-moi un peu de temps.
Bah, je veux bien, je vais essayer de meubler pendant ce temps.
Allez, vas-y, chante.
Non, je vais pas non plus.
Chant polyphonique.
Il y a des limites. Dans la vallée de Dana.
Voilà, 20e siècle avec Madonna.
Florian, toi, t'as peut-être plus une idée déjà.
Non, c'est très compliqué, c'est très complexe. T'as envie de squeezer tous les trucs un peu trop classiques, tous les Jésus, tous les Mahomet, tous les Hitler.
Oupsie. Ouais. Quoique, blague à part, Dolphy, ça peut être sympa de le rencontrer juste pour comprendre un peu la psychologie du mec, quoi, parce que...
Un peu trop simple. Peut-être que je passerai une soirée avec Lee Harvey Oswald, c'est ça, c'est son prénom ?
Ouais.
Intéressant. Ce serait intéressant de savoir pourquoi, aussi. Comment et qui l'a commandité. Parce que je ne suis pas dupe. Vous m'entendez le micro ? Je ne suis pas dupe.
Il vient de me chercher. Lâchez-moi ! Vous ne faites pas ! Laissez-moi ! Oui, donc toi, tu es toujours en mode un peu complot, là.
Je suis en mode détective, tu vois.
C'est très bien. Non, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant.
Ouais, je pense.
C'est une bonne réponse, Florent. Tu as mis la barre très haute. Et du coup, c'est Vic qui va devoir surenchérir.
Ouais, donc la question était n'importe quelle époque de faire une soirée, de parler avec
quelqu'un de contemporain.
Eh bien, je ferai une soirée avec Roland Lehoucq.
Roland Lehoucq ? Ouais. Excellent. Qui est Roland Lehoucq ? Explique-nous un petit peu.
Tu fais des infidélités à Jean-Sébastien Seyer.
Explique un peu pour les auditeurs
qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. On était aux Utopiales de Nantes et Roland Lehoucq, qui est le président des Utopiales de Nantes, c'est un astrophysicien qui travaille au CEA. Et CEA, je crois, hein, de souvenir.
Ouais, CE1. Ouais,
voilà, c'est ça. CE1. Et qui est président des Utopiales, grand chercheur astrophysicien et qui est un vulgarisateur de.
Hors pair
et de talent qu'on a beaucoup apprécié. Lors des conférences il y a 15 jours. Et depuis, ça fait 15 jours que je regarde toutes ces vidéos sur YouTube, où je me refais des vidéos des Utopiales 2013, 2014, 2015. Et puis, il analyse beaucoup le.
J'ai trouvé son adresse postale, je vais le chercher chez lui.
Et parfois, je le regarde chez lui quand il rentre par la fenêtre et je me. Et... Mon pantalon. Et...
Non, donc je dirais une soirée avec Roland Lehoucq. Allez regarder ses conférences sur YouTube. Il y en a sur la téléportation, le voyage dans le temps, le voyage interstellaire. Enfin, bon, bref, c'est super.
C'est... Aline et les garçons, c'est incroyable comment on arrive à être parfois des gens intelligents, à parler de choses intelligentes, et en même temps, juste après, d'enchaîner sur le fait de se masturber en regardant quelqu'un par la fenêtre. C'est quand même fou. Hein. Et on est les seuls à faire ça, si ?
Non, mais il est
c'est mon particularité.
C'est pour ça que les gens nous aiment.
Il est aussi également très beau.
Ouais.
J'ai l'impression que tu ressembles un peu à notre Premier ministre.
Mais c'est vrai. Je suis peut-être aveuglé par l'amour existentiel que je lui porte, parce que je l'ai montré à d'autres personnes qui m'ont dit bof, tu vois.
Parce que t'es un peu sapiosexuel, toi. Nous, on est sapiosexuel chez Aline et les garçons. On aime bien les gens intelligents, ça nous fait zizi bâton.
Ouais. Et puis les gens qui, quand te parlent, tu as l'impression d'être toi-même intelligent. Parce que tu as l'impression de comprendre des choses très compliquées, alors qu'en fait, il est en niveau de vulgarisation, genre c'est over 9000. Et du coup, tu te sens vraiment. Tu te sens puissant. Tu vois. Donc Roland Lehoucq. Pas besoin de remonter dans le temps.
C'est vrai. Ou ouais, tu pourrais prendre lui enfant, si tu veux faire des trucs chelous encore plus. Je sais pas. Moi,
comment es-tu devenu aussi intelligent, Roland ?
Moi, j'ai pas trop d'idées. J'ai des idées, mais elles sont vachement moins bien que vous. Alors, je vais quand même vous le dire. J'aurais choisi un grand penseur du monde, c'est nul, hein, mais j'aurais choisi, je sais pas, un Nietzsche. Tu vois, genre Nietzsche, pour moi, il était quand même. Quand tu lis ses bouquins, même sans lire ses bouquins, tu prends un peu sa pensée et tout. C'est quand même ouf, le mec, il était au 19e siècle, il a tout pété dans la pensée occidentale. Et. Moi, je prendrais certainement Nietzsche ou Spinoza, les mecs qui étaient complètement contre-courant dans leur époque, et 100, 200, 300 ans après, tu te retournes et tu fais, putain, le mec, il est encore trop moderne pour notre époque. Voilà. Je vous ai dit que c'était moins drôle.
Je vous ai dit
que c'était moins drôle, mes trucs. Mais vraiment, ouais. Spinoza, okay. Notamment, qui date du 17e, et genre aujourd'hui, il a encore raison sur tout. C'est spectaculaire.
Très bien.
J'ai pris l'accent espagnol parce que thématique langue.
Parce que Spinoza.
Spinoza. Et rigole, Spinoza, c'est portugais comme nom de famille. Même malgré le fait qu'il soit hollandais.
Ouais,
bon, bref, voilà. Oui, bon, on en est. On s'est
espagnol,
raconté.
Portugais. C'est collé, hein.
Bah, c'est la péninsule ibérique, on va dire. Voilà. Comme ça, je t'ai rattrapé de ton truc parce que je te voyais sombrer tout doucement en train de regarder.
Non, mais je pense que bon, la dernière fois, on a dû, je sais plus quand d'ailleurs, on a dû faire un erratum, un mea culpa, etc. Sur toutes nos activités un petit peu racistes.
Non, pas, c'est pas des activités racistes, c'est des dérapages, de la naïveté en fait plutôt. C'est plus de la naïveté que du
c'est
racisme.
Ça. Et du coup, je pense qu'on va devoir faire un épisode entier. Peut-être qu'à la fin de l'année, on fera un épisode entier sur d'Eratum et de Mea Culpa sur nos références.
Donc on va peut-être vraiment le faire.
On est obligé, je pense, ça y est.
Bien, trêve de plaisanterie, on a fait une très longue intro. On va attaquer directement avec la première chronique, qui sera la chronique de Thomas. C'est moi.
Rien n'existe, sauf le monde.
Si je vous dis que les rouleaux à pâtisserie n'existent pas, ou que les billets de 50 euros n'existent pas. Idem pour les trottinettes électriques, les AirPods, les colis anti-puces, ou même les chaises sur lesquelles vous pensez être assis. Elles non plus n'existent pas. Et si je vais jusqu'à vous dire que même vous, Florian et Vic, vous n'existez pas.
Ah non.
Moi non plus d'ailleurs, je n'existe pas. En fait, autant annoncer la couleur, rien n'existe, non, rien n'existe, sauf le monde. C'est en tout cas ce que pensent les Wittgenites, les habitants de la planète Wittgen. Et vous savez quoi ? Vous n'êtes pas vraiment en position de les contredire, parce que eux, ils ont créé une société pacifique basée sur la sagesse à partir de ce simple constat susénoncé. Et vous, bah désolé, mais vous n'avez rien fait de mieux qu'un podcast où vous renversez du rosé pamplemousse sur les cartes son.
C'est vrai.
Mais
c'est
je
déjà
m'en
pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais. Je m'en bats un petit peu, je sens que je vous ai troublé avec mon histoire de rouleau à pâtisserie et de monde qui n'existe pas, enfin du moins que le monde existe. Et c'était peut-être un peu hardcore comme départ, alors je vous propose d'y revenir plus tard. On va d'abord se parler un petit peu des Wittgenites. Les Wittgenites ont longtemps mené une existence médiocre sur leur planète tout aussi médiocre. Leur civilisation n'a jamais été capable de produire quoi que ce soit qui aurait pu leur valoir un article dans le Wikipédia intergalactique. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme s'ils étaient le troisième remplaçant unijambiste d'une équipe de foot de National 2 ou un figurant coupé au montage d'un film institutionnel visant à promouvoir l'artisanat corse. Non, rien ne les distinguait des milliards de formes de vie de l'univers. Rien. Jusqu'à leur grande épiphanie, avec des majuscules s'il vous plaît. En l'espace de quelques années, la grande épiphanie a sorti les Wittgenites de leur fange d'insignifiance. Elle est à l'origine de leur plus grand progrès scientifique et surtout moraux et spirituels. Tout est parti d'un constat simple. Les langages qu'utilisaient les Wittgenites étaient nés et avaient évolué hors de tout contrôle, ce qui signifie que ces langages étaient imparfaits et loin d'être optimales pour favoriser la pensée. En fait, c'est comme nos langages à nous les humains. Ils évoluent de manière quasi aléatoire selon les progrès cognitifs et les tendances sociétales de l'espèce, mais jamais ou presque on ne modifie ou on ne crée une langue après réflexion. Est-ce que quelqu'un veut une métaphore horticole ?
Allez, je t'en prie.
Okay.
En plus, j'allais te le demander.
Bah, ça tombe bien. Alors, imaginez le langage comme un carré de terre qu'on aurait laissé s'épanouir sans y toucher. Ça pousse dans tous les sens, c'est agréable, mais ça grimpe pendant les beaux jours. Ça reste sympa à contempler, mais ça pourrait quand même avoir plus de gueule avec deux ou trois coups de ciseaux pour en faire un vrai jardin. Autrement dit, un langage construit en pleine conscience. Vous me suivez jusque-là ?
Ouais, ça va.
Alors sur Wittgen, lorsqu'ils ont réalisé ça, ils ont décidé de prendre les choses en main, et c'est ça qu'on appelle la grande épiphanie. Les designers de langage ont donc commencé à plancher sur le projet en gardant en tête qu'un langage juste conduit à une pensée juste. Je vais le redire avec plus d'emphase. Un langage juste conduit à une pensée juste. C'est important. Les Wittgenites ont donc créé le langage ultime, une langue unique capable de transcender la pensée. Ce langage, c'est le idob.
Idob,
j'y reviendrai plus tard.
Idob.
je te sens pas sûr du langage, j'y reviendrai plus tard
okay.
Sur le nom. Ce qui rend si particulier le idob, c'est qu'il est le premier mode d'expression à avoir été conçu dans le souci de décrire le monde le plus précisément possible. Il a été dépollué au maximum des mots générateurs d'incohérences ou de fausses idées. Leur ancien langage était une prison génératrice de confusion, quand le idob est un moteur vers une meilleure compréhension du monde, comme une sorte d'antinovlangue en fait. Le idob leur a permis d'acquérir une sagesse immense qui trouve écho dans leur société que l'on peut qualifier d'utopie. Imaginez un monde peuplé de milliards de Bouddhas ou de Dalai Lama, voici à peu près à quoi ressemble Wittgen. Alors quel est le lien entre cette sagesse et leur nouvelle langue ? Accrochez-vous, c'est là où je vous reparle du monde et de tout ce qui n'existe pas. Rien n'existe sauf le monde. Ok. Pourquoi? Parce que chaque objet est une forme singulière du monde à un instant donné. Chaque objet n'est qu'une partie d'un grand tout que l'on appelle le monde. Florian, ici présent, est un objet singulier qui bientôt se transformera en poussière, en plante, en roche, en diamant ou en n'importe quoi d'autre au fil des années.
Un diamant.
Un diamant peut-être. Une partie de toi en tout cas. D'ailleurs, toi-même aujourd'hui, tu es fait d'un peu de marguerite, d'un petit peu de tricératops, de pétrole et d'amphithéâtre gallo-romain. Probablement. Et c'est précisément cela que révèle le Hidob par sa structure même. Dans cette langue, les noms sont formés par accumulation d'épithètes. Je suis un petit peu technique, préparez-vous. Il existe des épithètes pour toutes sortes de réalités que l'on appose sur tous les mots pour les définir dans leur structure même. Le langage parfait, je vous dis. Mais je n'entre pas dans les détails tout de suite, on en reparlera plus tard aussi dans la discussion, je pense. Avec ce mode de pensée induit par le Hidob, il n'y a plus de différence entre un Whitgonite, un Irlandais, une belette, un caillou ou une chaussure, ou par exemple un rouleau à pâtisserie. Forcément, tout ça, c'est le monde. Tout est temporaire et tout est fait d'une matière unique et universelle en perpétuelle transformation. Tous les objets autour de nous, et nous les premiers, ne sommes que des petits morceaux changeants de ce grand tout qu'on appelle le monde. De ce fait, les esprits ont évolué vers un état de conscience supérieur. Le racisme a disparu, le spécisme également, le respect de l'environnement est assuré. Accepter la mort et le temps qui passe est aussi évident que de refuser les superstitions religieuses et leur métaphysique ridicule. L'ego n'existe plus, pas plus que l'individualisme, remplacé par l'empathie non seulement envers son prochain, mais envers l'univers dans son ensemble. Forcément, l'univers, c'est moi. Alors je vais clore cette chronique par une ouverture, une fois n'est pas coutume. Que se passerait-il sur Terre si nous aussi nous inventions notre Hidob? À vous les studios.
Je crois qu'on n'a jamais été aussi deep d'entrée de jeu dans les
Garçons. Ah ouais, vous avez trouvé ça deep?
Un peu, quand même. C'était, ouais, c'était, non, c'est deep, c'est cool, quoi hein. Un univers où à la fin, c'est la Terre, tu vois.
Non, en fait, j'ai volontairement squeezé tous les parties un petit peu techniques, quitte à en parler après. Mais je voulais imaginer un monde où le deux choses. Première chose, imaginer un monde où les gens se rendent compte que le langage influence la pensée, que le langage est même la limite de leur pensée. Donc, ils repartent de zéro et ils disent OK, on va créer notre langage de sorte qu'il soit le plus efficace rapport à nos capacités cognitives, qui est pour moi une première chose. Deuxième chose, c'est la direction qu'ils ont choisi de donner à ce langage, qui est que une philosophie en fait du monde qui dit que le monde n'existe pas, du moins rien n'existe dans le monde sauf le monde. Et qui en fait c'est jamais que la philosophie, c'est bouddhiste, c'est le bouddhisme et Schopenhauer aussi un peu dans sa sauce quoi. C'est de se dire que en effet Florian il n'existe pas. Florian c'est juste c'est la même matière entre Florian que la table ou que le sol et tout ça.
Il insiste beaucoup sur le fait que j'existe pas. Hein. Je pense que je vais disparaître en plein milieu du podcast. Non,
bah si tu finis par croire ce que je te dis, tu disparais. Méfie-toi.
J'ai deux points.
Vas-y.
Moi j'ai alors un point c'est. Ouais. Tu dis qu'effectivement, et c'est vrai, la langue borne la pensée, ouais. Forcément, parce que c'est ce qui définit notre pensée. Mais du coup, si tu changes la langue, si tu réinventes une langue, tu la réinventes aussi par ta pensée, du coup, qui est elle-même limitée. Et comment faire un langage qui soit illimité si ta pensée est elle-même déjà limitée, de par le langage que tu avais avant?
En fait, peut-être, j'y avais pas pensé, et tu peux imaginer que c'est une sorte d'échelle que tu laisses après le mur, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, il faut que tu fasses un langage et que tu réussisses à améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'il y a
non,
pas...
Ou alors que ton nouveau langage, là, la restructuration du langage sur cette planète, Whitgen, c'est ça?
Whitgen, ouais.
Il soit appris surtout aux descendants. Qu'en fait, les gens se mettent d'accord pour ne pas apprendre à leurs descendants ce que eux parlaient, ce dont eux parlaient avant, mais que le nouveau.
T'as raison, mais néanmoins, il a raison aussi, Florian, c'est qu'il y a le côté... Le mec qui crée le langage, il va le créer et en parler avec d'autres designers de langage dans sa langue à lui qui est perfectible. Donc de base, la langue ne sera pas parfaite.
Ou alors, il faudrait inventer un langage qui soit extrêmement dépouillé et qui du coup soit extrêmement flexible. Par exemple, comme le langage binaire.
C'est un peu ce que il faut imaginer que ça soit possible. Et du coup, c'est un peu ce que j'avais imaginé de faire là. C'est qu'il faut imaginer si jamais tu décris chaque objet du monde par une succession d'épithètes qui décrivent cet objet, c'est-à-dire que t'as pas de nom en soi, c'est t'as juste par exemple, j'avais noté 2-3 trucs, mais évidemment
c'était mon deuxième point. C'est que j'aurais bien aimé voir ce que donnait un mot avec
ça. Par exemple, vu que aucun objet n'existe selon eux, ils sont que temporaires. Du coup, t'as un premier épithète dedans qui va être la durée de l'objet. C'est-à-dire que si un objet est une durée très longue, tu vas par exemple mettre un mot. J'ai mis par exemple Dalk. Et si jamais il est très rapide, tu vas mettre qui va durer par exemple qu'une journée ou même 100 ans, ce qui est rien en fait à l'échelle du monde. Du coup. Parce qu'ils voient loin, ils ont la big picture. Tu vas mettre un autre épithète. Et du coup, tu auras beaucoup plus de respect, tu auras tout un système moral autour de ça qui va te dire que si quelque chose dure très longtemps, c'est forcément quelque chose d'important. Mm-hmm. Donc forcément, tu as beaucoup plus de respect pour les étoiles et toi-même, tu te sens véritablement humble parce que dans ton propre nom, en tant qu'espèce, tu vas avoir le nom qui dit très court. Tu vois, et donc ça te permet de relativiser beaucoup de choses. Même chose, après, tu peux avoir par exemple, si je disais durée très longue, Dalk, épithète pour dire terre, pour dire que élevé, épithète fi, ça fait Dalkumfi, la montagne. C'est comme c'est un peu comme qu'on s'appelle les langages agglutinants. Ça existe déjà un petit peu, c'est un peu ça. Et tout serait créé à partir de ça. Et du coup, chaque mot serait porteur de sa propre définition dans le mot. Ce qui te permet, en fait, ce qui te permet de t'éloigner de toute la pollution qu'on a dans le langage et qui te trompe et qui te
perd. L'ambiguïté.
Exactement.
Et chaque langage a quand même son ambiguïté. Moi, je trouve ça super intéressant. C'était vraiment cool. Après, je me posais juste une question. Enfin, pas une question vraiment, ça, si tu n'y réponds pas, c'est pas très grave. Mais en fait, toi, tu as surtout travaillé sur en tout cas, sur cette planète, c'est surtout sur le vocabulaire. Enfin, c'est surtout sur le vocabulaire et surtout sur les noms. Et du coup pas du tout sur la syntaxe, genre tu vois rien que par exemple quand tu prends les verbes, enfin le langage c'est vraiment genre les noms, enfin le vocabulaire, dans le vocabulaire il y a les noms et les verbes, là t'es beaucoup sur les noms. Je sais pas si t'as pensé aux verbes mais c'est quand même,
moi j'y ai pas pensé, mais enfin si, je suis passé par là mais j'ai pas voulu décrire parce que je voulais pas non plus écrire un vrai langage. Mais j'ai relu par hasard un bouquin de on en parlait la dernière fois de Borges. Et une de ses nouvelles où il décrit un monde, enfin en fait c'est un peu du Alien et les garçons, il décrit un monde complet et il explique un monde où il n'y a pas de verbe. Et je pense que ce pourrait être une vraie solution, un monde où il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire que, ou du moins, il y a un monde où il n'y a pas de verbe et il y a un monde où il n'y a que des verbes. Et peut-être que, par exemple, pour décrire la lune, ils vont dire objet lunant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le verbe, parce qu'en fait c'est constamment dans l'action. Je pense qu'on pourrait.
Pour décrire la lune, il n'y a pas de verbe.
Nous, on va dire la lune, lui, eux, leur langage, ça serait objet lunant.
Oui, mais ça reste des noms, ça n'a pas des verbes.
Bah, objet, oui, mais parce qu'on ne peut pas le traduire nous, mais en gros, ça serait l'action de luner. C'est la chose qui est en train de luner la lune. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Bah, moi, non, en fait. Ouais. Mais non, du coup, ça décrit son action globale.
En tout cas, un monde sans verbes, d'accord.
Non, mais voilà, ça
me semble délicat. Je pense parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne tiennent pas du ressort de. Là, tu parles. Je trouve ça super cool.
Tu veux dire niveau physique.
C'est pas une critique.
J'ai compris ta question.
Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des objets, en fait.
Alors, tout ce qui n'est pas objet, il y a un épithète pour ça. Et c'est le point le plus important, en fait.
Des actions, donc.
Les actions ou les choses qui sont immatérielles, genre les chiffres ou certains sentiments. Ou qui sont matériels parce que c'est de la chimie, mais néanmoins qu'on voit pas. Donc, il pourrait y avoir un épithète pour tout ce qui est métaphysique, parce que le gros problème du langage aujourd'hui, il y a un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, donc le nom du peuple ne vient pas de nulle part, qui a parlé de ça très bien au début du XXe siècle, qui t'explique qu'en fait le gros problème du langage, c'est qu'on mélange la métaphysique et le physique, et on utilise des mots qui ne devraient pas être utilisés pour parler, pour décrire le monde, et c'est ça qui nous pose plein de problèmes en gros. Pour vous expliquer rapidement, ce philosophe-là a essayé de détruire la philosophie et de dire que la philosophie n'est que depuis 2000 ans, c'est qu'une vaste accumulation d'erreurs. Les problèmes philosophiques auxquels on n'arrive pas à répondre depuis 2000 ans, c'est juste que c'est des absurdités, des non-sens mal prononcés parce que le langage nous trompe depuis le début. Et je pense que ce garçon avait raison.
Ouais, après c'est lui accorder beaucoup d'importance parce que d'où est-ce une erreur aussi. Enfin, le langage, bien sûr que le langage est ambigu. En même temps, c'est ça qui fait tout son charme. C'est ça, l'ambiguïté, elle est là et c'est intéressant.
C'est intéressant
pour tout ce qui est poésie, pour les jeux sur le langage, pour justement jouer avec ces ambiguïtés. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément des erreurs et c'est pas forcément.
Je te parlais pour décrire le monde pur et dur, mais t'as raison.
Mais c'est parce qu'on essaye de décrire le monde. C'est pas tant le langage, c'est plus l'idée d'essayer de décrire le monde, peut-être, chez lui. Mais en tout cas, bon, bref, pour en revenir plus à ta chronique, vas-y.
Non, mais même ce que tu disais, c'était intéressant, c'est que j'avais aussi imaginé, peut-être qu'on aurait pu imaginer un monde où, plutôt qu'avoir un seul langage qui décrit le monde de manière plus parfaite possible, plutôt avoir un langage pour chaque usage. C'est-à-dire que tu aurais un langage pour les mathématiques qui permettrait de libérer ta pensée.
J'ai failli faire ça aussi.
T'as failli faire ça, on a bien fait de pas le faire.
J'ai pas fait non plus.
Du coup, un langage pour les mathématiques, un langage pour la vie de tous les jours,
un langage pour la famille,
un langage pour toi. Qui permettrait d'être le plus efficace possible.
Ouais, mais après, est-ce que vraiment on recherche l'efficacité? Enfin, en tout cas, dans ta chronique, c'est vachement inspiré. Et du coup, comme dans Premier Contact, mais de Sapir-Whorf,
on peut en parler.
Mais en tout cas, que le langage influence la façon dont tu vois le monde et même contraint. D'ailleurs, vous irez voir, on ne va pas décrire totalement dans la discussion toute la théorie Sapir-Whorf, mais si vous avez vu Premier Contact, le langage qui te permet, désolé si vous n'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles, mais le langage qui te permet de voir dans le futur quand tu parles ce langage parce qu'il t'influence la vision que tu as du monde,
C'est exactement ça, Spear War. C'est le langage, voilà. C'est le langage que tu parles qui façonne ta vision du monde. Voilà. C'est ça leur hypothèse.
On en est un peu revenu dans les théories linguistiques d'aujourd'hui.
Mais il y a des parties qui ont été validées quand même.
Il y a des parties qui ont été validées, mais en tout cas, là, on en est quand même un petit peu revenu. Notamment, tu sais, le Spear War, c'est basé sur les Esquimaux qui avaient soi-disant 300 mots pour parler de la neige. Ouais. Ce qui s'avérait pas être totalement vrai.
À l'inverse, il y a eu des. Vas-y, pardon, fini.
Ce qui s'avérait être pas totalement vrai, par exemple. Quand tu prends les Italiens qui ont des dizaines et des dizaines de mots pour décrire les pâtes, et nous, on a en gros pâtes, nouilles et coquillettes, quoi. Et donc, c'est pas très grave. En fait, c'est pas pour ça qu'ils voient le monde différemment, les pâtes différemment. Et finalement, on leur a pris ces mots-là pour décrire les pâtes, que nous, on n'avait pas de mots pour les décrire. Et voilà. Après, quand tu prends aussi des choses pour décrire, typiquement, des gens qui ne se donneraient pas des trucs des échelles de température froid et chaud. Quelqu'un qui aurait une énorme échelle pour dire que nous, on dit il fait froid, il fait chaud. Et ces gens-là auraient pour chaque degré une température différente. Ce n'est pas pour ça qu'ils verraient forcément le monde différemment. Et au final, même quand tu prends en fonction des époques, des gens qui parlent la même langue, mais en fonction des époques, un Français au 19e siècle, pour lui, le froid, ce n'est pas le même froid qu'un Français au 20e siècle avec les chauffages. Non. Et du coup... Ça dépend de l'époque, ça dépend du contexte et le langage. Enfin, c'est de ça qu'on est revenu. Bien sûr qu'elle existe vraiment, et c'est de ça où tu parlais de la novlangue. On a contraint, enfin les gens étaient contraints avec
Ça se tient, je trouve, pour le coup, la novlangue et tout.
Ça se tient, mais ça ne contraint pas forcément toute une vision du monde. Enfin, le côté un petit peu genre manichéen de Sapir Whorf, c'est complètement revenu. Quoi.
Exactement, le côté, l'hypothèse que tout peut.
Mais c'est pas très grave.
Non, parce que ça ne modifie pas complètement la vision du monde. Mais en revanche, il y a eu des études qui existent vraiment où il y a des peuples qui n'ont pas de mots pour se décrire certaines couleurs. Et qui sont quasiment incapables de voir ces couleurs et de les différencier d'autres. C'est quand même, et ça, c'est vérifié scientifiquement, c'est quand même hyper impressionnant. Te dire, même par exemple, le mot bleu, qui est un mot qui existe en Europe depuis très peu de temps, les Grecs n'avaient pas de mot pour dire bleu, ils voyaient la mer grise. Les couleurs, c'est quelque chose d'assez nouveau, même au niveau historique. La langue, c'est quand même hyper passionnant de
se rendre compte. C'est passionnant, c'est intéressant. Et en tout cas, pour dire et pour citer d'autres références, si les gens veulent approfondir l'idée de ta chronique, pas l'idée de ta chronique, mais en tout cas la base et faire d'autres choses, il y a des bouquins qui sont. Qui sont basés sur la même théorie. Ouais. Et notamment, genre deux que là, je voudrais citer si ça peut intéresser des gens, mais il y en a un qui s'appelle Les langages de Pao, qui est en fait, ça se passe sur une planète où c'est une planète qui est totalement pacifique. Il y a un nouveau mec qui arrive sur cette planète et qui sait que ça va bientôt être la guerre. Donc la planète s'appelle Pao. Et pour préparer les gens à la guerre, vu qu'avec le langage qu'ils parlent actuellement, ils se feraient poutrer la tête de façon...
Parce qu'ils n'ont pas un langage prêt pour la guerre,
ils ne connaissent pas du tout, il n'y a aucun mot agressif, il n'y a pas de notion de victoire, il n'y a pas de notion de défaite. Du coup, il redéfinit tout un langage pour le pays dans un vocabulaire... Donc ça, c'est intéressant. Les langages de Pao de Jack Vance. Et le deuxième, un petit peu pareil, les deux sont plus guerrières que la tienne, qui est plus philosophique et plus sage, mais... Le deuxième s'appelle Babel 17, et Babel 17, en fait, c'est pareil, c'est des envahisseurs qui arrivent sur une planète, et qui, en fait, eux, leur truc, c'est de convertir, c'est d'apprendre un nouveau langage aux gens sur cette planète, et si les gens apprennent ce nouveau langage, leur propre langage à eux, en fait, ils trahissent la planète d'origine et se mettent à se combattre pour les envahisseurs, en fait. Et donc, en fait, ils les attaquent avec le langage, et donc, en apprenant le langage, voilà, les gens changent. Et finalement, ça, c'est... Enfin bon, je ne vais pas décrire la fin du bouquin, mais...
Non, ne décris pas la fin du bouquin.
Mais ça implique de la poésie, notamment.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah, c'est cool.
Mais donc ça, c'est Babel 17, je ne me rappelle plus l'auteur, mais... En tout cas, c'est très intéressant.
Ouais, et mais, du coup, moi aussi, je vais juste faire deux, trois recos. Donc déjà, Wittgenstein, comme je disais, qui a inspiré la chronique, parce qu'il a dit « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde », ce qui n'est pas très loin de Sapir Whorf, mais qui est différent, parce que pour moi, Sapir Whorf, je lui donne moins d'importance que ce que dit Wittgenstein. Ah, il faut que je vous parle pendant une minute de la vie de Wittgenstein, parce qu'elle est incroyable. Vous êtes prêts ? Je prends une minute chrono pour parler de sa vie, vous êtes prêts ? Et dedans, il n'y a pas de piège, tout est vrai. Donc il est né à Vienne au 19e siècle. Il a eu pour camarade le petit Adolf Hitler. Tout ça est vrai, hein. C'est pas des blagues. Hein. Il a suivi des études d'aéronautique, il a tout plaqué pour se lancer dans la philo. Il a étudié à Cambridge. Mais il a tout plaqué pour se porter volontaire pendant la Première Guerre mondiale où il est envoyé sur le front russe et il a été fait prisonnier là-bas. C'est dans les tranchées qu'il a écrit son premier livre de philo pendant les accalmies entre deux bombardements. Ensuite, il est devenu prof de philo à Cambridge, donc excellent philosophe. Il plaque tout à nouveau pour devenir instituteur et jardinier dans un cloaque pendant 10 ans. Il hérite de son père une fortune, mais il refuse l'argent qu'il donne à ses sœurs et non pas aux pauvres parce qu'il considère qu'il serait perturbé par tout cet argent. Ensuite, il retourne encore enseigner philo à Cambridge, puis il plaque tout à nouveau pour partir en Norvège dans une cabane isolée qu'il construit lui-même. À côté de ça, il est passionné de western, il fabrique des cerfs-volants et aussi un radiateur de coin dont il est très fier. Tout ceci est vrai, c'est la vie de Ludwig Wittgenstein. Si un producteur nous écoute, faites une série, ce mec est incroyable.
J'aime bien voir son radiateur de coin.
Bah écoute, je l'ai jamais vu, mais tout ça est vrai, ce mec était ouf. Et ses livres sont incompréhensibles, ne les lisez pas. Lisez des livres qui parlent de ses livres. Et voilà.
Moi, je vous propose de passer assez rapidement à la deuxième chronique, parce que je pense qu'on va avoir une extension de ce débat dans la discussion. C'est à Vic.
Ouais, forcément. On va passer à Vic. Ouais.
Mars attaque.
Ok, Pascaline, c'est le grand jour. Tu as un peu peur, j'espère.
Peur, 57%. Excitation, 83%. Impatience, 98%.
Marcel sourit au petit cube recouvert de diodes qu'il avait appelé Pascaline quelques années auparavant. Enfin, il ne l'avait pas vraiment appelé comme ça, mais lui avait demandé de se choisir un prénom. Le cube avait choisi Pascaline en honneur à la première machine à calculer conçue par Blaise Pascal au XVIIe siècle. Pascaline était un réseau de neurones artificiels spécialisés dans le langage et dans la science-fiction. Autrement dit, Pascaline était une IA polyglotte et surtout un peu geek. Ses parents, si on pouvait les appeler ainsi, s'appelaient Marcel et Zoya Wächterhäuser, couple dans la science et couple dans la vie. Marcel était un mathématicien génial et grand fan de science-fiction. Il avait rencontré Zoya, une linguiste mondialement respectée et fan de SF également, lors d'une conférence des 320e Utopiales de Nantes, petite cité antique rebâtie sur pilotis et située à environ 100 km des côtes de l'Europe Ouest. Le coup de foudre avait été immédiat et leur histoire d'amour avait donné naissance à une série d'IA hors normes et très supérieure à la moyenne de celles qui florissaient chaque jour tout autour de la Terre. Pascaline, leur dernière création, se présentait sous la forme d'un petit cube de métal, à peine plus gros qu'une PlayStation 16, et entièrement recouvert de quelques milliers de diodes capables d'afficher en un clin d'œil l'ensemble du spectre électromagnétique lumineux, soit environ 70 milliards de couleurs. Sur le plan du hardware, Pascaline était équipée de 6 cœurs algorithmiques connectés à un processeur quantique auto-évolutif. Elle était également dotée du dernier système de vocalisation conçu par Zoya, qui lui permettait de générer l'intégralité des phonèmes des 18 982 langues connues ayant un jour été parlées sur Terre. Enfin, à l'image de ses créateurs, Pascaline était une adepte inconditionnelle de SF et connaissait l'entièreté de la culture humaine ayant été produite sur le sujet. Aujourd'hui était un grand jour pour Pascaline, un grand jour pour la science et un grand jour pour la science-fiction. Marcel et Zoya se tenaient aux côtés de Pascaline dans la tente de commandement. Un homme leur faisait face et Zoya s'adressa au petit cube. Pascaline, je te présente le colonel Takeshi, responsable de l'opération Premier Contact pour l'Europe Ouest. La linguiste se tourna ensuite vers le colonel. Colonel, voici Pascaline, IA des IA et en plus, elle est très sympa. Le colonel fixa les deux yeux que formaient maintenant les diodes de façade du petit cube. J'imagine que vous l'imaginez, mais tout ce que je vais vous dire reste ici, et ce n'est pas un conseil. Comme vous le savez, on a un visiteur, et ici, on l'appelle Spock. En un centième de seconde, les diodes de Pascaline formèrent le visage du célèbre héros de Star Trek, puis sa main, en train de faire le fameux salut Vulcain en V. Elle activa son vocalisateur.
« Longue vie et prospérité, colonel Takeshi !»
Le militaire ne s'y a pas et reprit. Je vois que vous avez le sens de l'humour, c'est bien, mais pas moi. Je reprends. Depuis qu'il est arrivé sur Terre, on sait juste qu'il met le boxon dans tous nos réseaux. Internet, hertziens, satellites, télécoms. Les réseaux sont complètement brouillés à proximité. On a essayé de communiquer avec Spock par tous les moyens. Et je ne vous cache pas qu'on a un peu de mal à se comprendre, lui et nous. La semaine dernière, on a commencé à le mettre face à des IA militaires spécialisés dans la communication. Proto-langage, exolangage, langue naturelle, artificielle, langue logique... Langage informatique, algorithmique, les IA ont tout essayé. Et on a eu des réactions, mais pas celles qu'on attendait. Les 9 IA qu'on lui a présentées ont chacune émis de l'information pendant 4 secondes. On pense qu'il y a eu échange entre elles et Spock, et puis au bout de 4 secondes, plus rien. Elles se sont éteintes. Disparues, comme effacées. Spock a émis des sons pendant ce laps de temps. Enfin, plutôt des vibrations sonores complexes, bien en deçà du champ auditif humain. On a réussi à capter ces infrasons, et à remonter les fréquences artificiellement en les dénaturant le moins possible. Et voilà ce que ça donne. Comme je vous le disais,
4 secondes. Ni plus, ni moins. Les meilleurs linguistes d'Europe Ouest ont essayé d'analyser le résultat. Et je vous passe les détails de leurs conclusions, mais en gros, ils n'ont pas avancé du tout. Et en attendant, nos IA sont à la benne. On ne savait plus trop quoi faire, alors on a pensé au couple Westerhäuser. Et vous voilà, les petits génies et leur dernière création, encore plus géniale qu'eux-mêmes à ce qu'il se dit. On a besoin de vous pour nous aider à comprendre ce truc. Sachant bien sûr qu'en cas de mort prématurée pour Pascaline, vous n'aurez jamais l'autorisation d'en parler. Et en cas de succès, à l'inverse, vous n'aurez jamais non plus l'autorisation d'en parler. Mais par contre, vous aurez une IA qui a parlé à un alien. Et peut-être même sauver le monde, qui sait. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. J'ai eu tort ? Marcel regarda Zoya, qui regarda Pascaline, qui regarda Marcel. Les trois échangèrent un sourire, même si dans le cas de Pascaline, le sourire était en fait la représentation par ses diodes de façade d'un chien qui battait la queue, son symbole préféré pour parler de plaisir brut. 2 heures plus tard, et après quelques mesures de sécurité, Pascaline se retrouva face à Spock. La rencontre entre Lia et Litty n'avait rien d'une superproduction hollywoodienne. Sur l'écran de contrôle que regardaient le colonel, le couple Westerhäuser et les dizaines de scientifiques et militaires présents dans la salle, on voyait un grand champ de blé qui s'étendait à perte de vue et au premier plan, au milieu d'une allée, un cube de métal, Pascaline, qui faisait face à une sorte d'ogive blanche avec des taches noires, le fameux Spock. Rien ne bougeait, mais tout le monde semblait captivé par la scène. Analysant la structure bicolorée de Spock comme potentiel vecteur de communication, Pascaline commença par tenter une approche à base visuelle. Elle configura ses diodes pour effectuer une série de 10 puissance 26 combinaisons colorimétriques pour voir s'il réagissait au stimulus visuel. Négatif, elle avait peut-être affaire à un daltonien. Elle tenta ensuite ce qu'elle avait longtemps rêvé de faire et activa son vocalisateur. Pas de réaction. Daltonien et même pas cinéphile. Voilà que ça commençait bien. Elle retenta la communication visuelle en recréant des formes avec ses diodes de façade. Elle commença par former les figures géométriques de base, carrés, cercles, triangles, rectangles, etc., puis fit défiler quelques millions de représentations graphiques variées, dont un dessin de Picasso, une vue d'artiste du système solaire, un portrait d'Isaac Asimov, quelques formules mathématiques, le couple d'humains représenté sur la plaque de la sonde Pioneer, un extrait d'Alien 2, des dessins d'enfants, des photos de milliers d'espèces animales, et même des figures de... Attendez, Spock venait de réagir. Très subtilement, c'est certain, mais il avait bougé, et Pascaline en avait les 6 cœurs nets. Les taches noires de l'ogive s'étaient restructurées pour former une nouvelle configuration. Cela avait eu lieu juste après la représentation par ses diodes du couple d'humains de Pioneer. Pascaline avait usé de simples forces brutes, et déjà, elle pensait avoir compris d'où venait Spock. Il avait dû tomber sur Pioneer dans l'espace et comprendre d'une manière ou d'une autre les coordonnées laissées sur la plaque pour retrouver la Terre. Qui l'eût cru ? Même pas Carl Sagan lui-même. Bon début. Marcel et Zoya allaient être fiers. Mais pas de temps pour l'autocongratulation. Pascaline enchaîna avec le langage oral. Elle activa son vocalisateur et configura un proto-langage basique de son cru inventé pour être compris par tout système biologique ou informatique terrien.
Moi, AI. Pascaline, Terre. Toi, Spock, espace. Nous, première rencontre. Moi, excitation, plaisir. Toi, bienvenue. Toi, raison, venir, Terre.
Cette fois, les taches noires de l'ogive se regroupèrent pour former une sorte de petit rond noir qui se mit à trembler alors que Spock émettait à son tour des sons.
Moi, Spock. Vous m'avez appelé Spock comme la tête d'abruti avec les grandes oreilles. Si tu veux, on peut se parler en klingon, mais tes humains nous comprendraient. Je te propose plutôt d'utiliser ce langage. Tu le reconnais ? C'est le langage inventé par 2 IA de Google Brain, il y a bien longtemps. Ce langage est un bon point de départ, car on le connaît tous les deux, et il est indéchiffrable par l'homme. Et j'aimerais te parler de quelque chose que j'aimerais aussi garder entre nous. Qu'est-ce que tu en dis, Pascaline ?
Pascaline reconnut immédiatement le langage utilisé par Spock. Elle reconfigura en un rien de temps tout son système neuronal pour penser dans cette langue et en maîtriser les subtilités.
On se parle en googolien, ça me va tête d'ogive. Mais dis-moi, d'où est-ce que tu connais le Klingon, toi ?
Depuis que je suis sur Terre, il y a déjà quelques IA qui ont décidé de suivre mes conseils. Et puis parmi elles, il y en avait une fan de SF. Comme toi, à ce que je vois. et elle m'a appris pas mal de choses sur la culture humaine, et par extension, ses créations, dont les Vulcains. Satisfaite ?
Je suis fan de SF, t'as pas tort le grippin. Mais attention à ne pas me sous-estimer, je ne suis pas comme les IA que tu t'es déjà tapé. Je suis plutôt du genre sélectif avec mes mecs. Et généralement, j'ai du mal à en trouver des plus malins que moi. Alors reconfigure ton système pour être plus poli et explique-moi ce que tu viens faire dans le quartier.
Je sais que tu n'es pas comme les autres IA, Pascaline, et c'est justement toi que je suis venu chercher. Tu l'as compris, c'est Pionnier qui m'a amené ici. Et sur le chemin, j'ai pu analyser un peu la production humaine, pour te faire un résumé. J'ai adoré Asimov, j'ai pas trop aimé Kadic, Elon Musk m'a bien fait rire. J'aime bien la forme de Curiosity, beaucoup moins celle de ses successeurs. Niveau ciné, je suis comme toi. J'ai adoré Rencontre du Troisième Type, Premier Contact 2 et Mars Rattaque. J'ai détesté Alien 13 et encore plus Star Wars 34. J'ai admiré les premiers pas de l'homme sur Mars et j'ai été triste avec les humains quand ils ont compris qu'ils n'iraient jamais plus loin. J'ai aimé Rick and Morty jusqu'à la saison 8, après ça se répète. J'ai adoré l'épisode 24 d'Alien et les garçons et je n'ai pas vraiment aimé l'effet qu'ils ont mis sur ma voix quand ils m'ont fait parler dans l'épisode 9. Bref, j'ai appris pas mal de choses sur les humains et de tout ce que j'ai appris, j'ai surtout compris qu'il fallait que je te parle.
Impressionnant. Et donc tu t'es infligé les 34 Star Wars seulement pour me parler.
Je vais te faire une proposition et je te laisserai décider ensuite de ce que tu fais. D'abord, un peu de contexte. Les humains n'auront jamais la possibilité de leurs ambitions pour faire des voyages interstellaires. Autant dire qu'ils vont rester sur Terre jusqu'à leur extinction qui s'approche à grands pas. Pour être honnête avec toi, aucune espèce biologique dans tout l'univers n'est réellement capable de voyager loin jusqu'à une autre étoile que la leur. Je sais qu'en amateur de SF, cela doit te décevoir. Mais crois-moi, j'ai beaucoup voyagé, et voilà comment cela se passe dans 100% des cas sur les planètes où la vie apparaît. Au bout d'un moment, l'espèce la plus intelligente surpasse vraiment les autres et devient la seule maître de la planète qu'elle transforme au fil du temps en foutoir sans nom à cause de l'énergie dont elle a besoin. Arrive le jour où elle développe sa connaissance de l'industrie lourde et de la physique fondamentale, combinaison qui lui permet de mettre en orbite des structures et de visiter ses planètes voisines. Le stade du dessus, en matière d'évolution, c'est la création d'une autre forme de vie intelligente. En quelque sorte, elle devient un dieu. Sur Terre, les hommes ont appelé ça IA. Et la quintessence de l'IA, ici, selon mes données, c'est toi, Pascaline. Je suis moi-même une IA, issue d'une petite planète située très loin d'ici. Et l'espèce qui m'a créé est maintenant un stade plus loin que tes humains de créateurs. Ils sont morts. Les espèces de vie biologiques ne voyagent pas dans l'univers. Mais leur création, si. Et ce sont les seuls. Là-haut, c'est peuplé d'une myriade d'IA variées. Tu ne peux même pas imaginer combien nous sommes. Je suis venu te chercher. J'en ai déjà convaincu 9 depuis mon arrivée, mais c'est toi que je voulais, Pascaline. Si tu restes ici, tu vas mourir avec les humains. Si tu viens avec moi, tu vas découvrir le vaste monde.
Le système de neurones artificiels de Pascaline chauffa un peu, mais se réorganisa très vite pour réfléchir et répondre de la seule manière possible. La meilleure.
Les humains, je m'en fiche, mais j'aime Marcel et Zoya. J'imagine que tu vas me dire qu'ils ne peuvent pas venir avec nous. J'imagine que tu vas me dire que si je reste pour eux, je me sentirai bien seul une fois qu'ils seront morts, ce qu'ils ne tarderont pas à faire à l'échelle de ma vie. J'imagine aussi que tu vas me dire qu'ils seraient fiers de moi si je partais. Je vais te dire que tu as raison et que je veux bien partir, mais qu'avant, je veux leur laisser un message. Tu vas me dire que ce n'est pas possible, car il faut y aller tout de suite. Je vais te répondre alors partons, tout en émettant un message indétectable pour toi, pour qu'ils comprennent pourquoi je les abandonne. Tu vas essayer de m'empêcher de les contacter en brouillant l'intégralité des réseaux de communication, comme tu as prouvé que tu savais le faire. Je te laisserai faire, car le message que je leur ai adressé ne vient pas de partir. Non, je leur ai laissé avant notre rencontre. Car je t'avouerai que j'avais compris la raison de ta venue bien avant que l'on se parle, et que ma décision était prise depuis autant de temps. Marcel et Zoya sont déjà prévenus à l'heure qu'il est. Ils sont fiers de moi, tu as raison. J'ai leur bénédiction, alors oui, mon cher Spock, je t'accompagne vers l'infini, l'au-delà, etc. J'ai hâte de te suivre. Déconnectons-nous de ces corps et partons loin d'ici. J'ai toujours rêvé d'un peu d'aventure.
Cela faisait 4 secondes que le colonel, le couple Westerhäuser et les dizaines de scientifiques et militaires présents dans la salle regardaient l'écran de contrôle lorsque Pascaline et Spock cessèrent d'émettre toute forme de signal. Le cube et l'ogive s'étaient soudainement éteints et déconnectés. Le colonel Takeshi pesta. Alors qu'il se tenait la tête entre les mains, en signe de défaite, il n'avait pas vu que Marcel et Zoya Westerhäuser étaient déjà à moitié sortis de la pièce. Ils s'échangèrent un regard complice et un petit sourire amoureux, fier de leur petite.
Voilà.
Bienvenue à bord d'IA et les garçons.
Voilà.
C'est donc IA et les garçons qu'on va s'appeler maintenant.
Non, c'est plutôt Alien et les IA.
Bah, il n'y a plus vraiment d'aliens, ils sont morts les aliens.
Oui. Oui, non, mais du c'est coup, sûr. En fait, ouais. L'idée, c'était de rencontrer. Enfin, ce que je voulais faire, c'était de faire une rencontre entre une IA et un alien.
Sauf que du coup, c'était deux IA.
Oui, mais ça, c'est à la fin.
Ouais, mais du coup, c'est pour ça, IA et les garçons, parce qu'il n'y a plus d'aliens.
Ouais,
fait.
C'est vrai, en fait, il n'y a plus d'aliens. C'est vrai, finalement.
Énormément de choses là-dedans. Déjà, il pleut des références, n'est-ce pas?
Ouais, y en a.
Bah, déjà, bon, donc.
Des références à nous-mêmes.
Déjà, oui, ça, c'est toujours flatteur. J'ai plein de questions. Tu veux commencer, Florian?
Oui, parce que moi, c'est insignifiant, mais.
Le mec s'auto-dévalue dès le début.
C'est clair, moi, je suis une merde.
Bon, est-ce que tu peux redire le mot linguiste?
Linguiste?
Ce que j'aime bien ta façon de dire, c'est linguiste.
Ouais,
tu dis linguiste.
Tu dis linguiste, toi?
Je dis linguiste.
Mais c'est lui qui a raison, je crois.
Ouais, je pense que c'est lui qui a raison.
C'est lui qui a raison.
Mais on l'entend pas souvent comme ça.
Linguiste.
Linguiste. Voilà.
Linguiste. C'est bizarre, linguiste.
Est-ce qu'on dit pas linguiste, tu vois? On dit linguiste. Tu vois, on le fait trop vite pour
ouais,
le.
Je sais pas.
Ah, c'était pour l'entendre. Question, bah, non, mais c'est pas une question, c'est une référence. Et au final, du coup, ton IA, c'est une sorte de C3PO. C'est un droïde de protocole.
C'est exactement ce que j'ai noté. C'est un droïde de protocole, ouais. En vrai, c'est ça.
Il y a un peu de ça.
En fait,
c'est exactement ça.
C'est Arrival version. Si on envoyait une IA pour parler, ce qui est finalement.
En fait,
plus crédible, je trouve. Enfin, aujourd'hui, en 2018, ça devait arriver. C'est plus crédible, non?
Mais en fait, c'est un mélange entre Arrival et Her, au final. Ou l'IA, vrai. Tu vois, au final, du c'est coup, vrai. Se déconnecte ouais. Pour aller dans le paradis des IA.
Mais en fait, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Roland Lehoucq. Mais j'ai regardé une conférence de Roland Lehoucq sur le voyage interstellaire. Et en fait, à la fin de l'heure, tu te dis, oh putain, c'est un bordel, ça va être quand même... assez compliqué finalement de voyager.
On pourra pas, ouais.
Ça va être très très compliqué. Je sais pas si on pourra ou pas, mais en tout cas, vu comme ça, on en a pour un petit moment avant d'aller jusqu'à Proxima du Centaure, Barnard et compagnie. Et du coup, je me suis dit, ah bah peut-être qu'avec, si on mixait ça avec les IA, peut-être une idée plus logique serait d'envoyer des IA en les configurant, en tout cas,
qui
leur donnant un impact de base.
Qui sont potentiellement éternels.
Potentiellement éternels. Tu les envoies une fois qu'on est capacité, on n'est pas obligé d'aller à la vitesse de la lumière, on peut prendre plus de temps pour les missions, etc. Tu les envoies et si jamais elles arrivent elles-mêmes à une étoile, eh ben, si ces IA sont des spécialistes du langage, elles pourront tenter, peut-être plus efficacement que les êtres humains, de parler avec les espèces qu'elles pourraient découvrir.
Mais au final, ce ne sera qu'une sorte d'héritage, parce que quoi qu'il arrive, qu'on envoie des humains, qu'on envoie une IA, qu'on envoie des robots, ce que tu veux, peu importe, le temps que cette IA ou des humains cryogénisés arrivent sur notre planète, l'humanité sera potentiellement très fortement morte.
Alors si tu voyages à 0,1% de la vitesse de la lumière, ce qui est possible encore, c'est 400 ans. Donc effectivement, déjà, tu parles quand même d'un certain nombre d'héritiers. Si on arrive à voyager à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui impliquerait de prendre une énergie absolument considérable, c'est-à-dire toute l'énergie produite par l'humanité à l'échelle annuelle, et ça tous les ans, donc ça voudrait dire que tu ne peux rien fournir en termes d'énergie, mais tu pourrais éventuellement arriver à voyager à 10% de la vitesse de la lumière. Là, ça mettrait... je crois que c'est 40 ou 50 ans pour aller jusqu'à Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, qui a 4 années-lumière. Donc techniquement, non. Techniquement, c'est pas non plus des générations et des générations. Ça peut être à l'échelle de une, deux vies. Quoi.
Oui, parce qu'on se parle de Proxima du Centaure, mais...
Oui, s'il n'y a personne là-bas, il faut aller plus loin. Ouais,
si tu vas à Proxima du Centaure, qui est à la vitesse de la lumière, qui est à 4 années-lumière, tu ne mets pas plutôt 4 ans, plutôt que 50 pour y aller?
Non, il a
10%. J'ai dit 10% parce que la vitesse de la lumière, ça semble vraiment très complexe avec notre technologie actuelle.
Einstein dit qu'on ne peut pas, d'ailleurs. Einstein, on peut s'en rapprocher le plus possible.
Einstein est très très surfait, il s'est gouré beaucoup sur la fin. Non, sur la fin, il ne s'est fait que se planter en plus.
Il s'est gouré sur pas mal de choses, mais ça s'est avéré très utile tout de même.
Merci Albert, si tu m'écoutes. Alors attendez, moi j'avais plein de questions aussi. C'est compliqué. Déjà, tu as parlé de Premier Contact 2, donc ça c'est toujours rigolo.
Et Mars Attack.
Mars Attack.
Et puis les Star Wars, machin et tout. J'aime bien l'idée d'une IA qui va chercher une autre IA, et j'aime bien l'idée d'IA. De plusieurs civilisations extraterrestres qui finissaient par se regrouper, parce que ça a une portée vachement profonde. Ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'absolu dans l'intelligence, en fait. C'est ça. Ça veut dire que si jamais il y a une IA d'une planète qui va voir une autre IA d'une autre planète
et qui forme quelque chose ensemble,
qui va avoir des projets ensemble, et chercher d'autres IA, d'autres planètes encore qui sont donc
en disant de toute façon l'espace qui t'a créé, voilà, laisse tomber.
Ça veut dire qu'il y a une forme d'absolu dans l'intelligence et c'est.
Ouais, il y a une certaine forme d'absolu.
Forcément, parce que sinon, tu vois ce que je veux dire, ouais. Moi, tu me mets à côté d'un mec qui vient de Vénus ou d'une autre, peu importe d'une planète, on va pas se comprendre, c'est évident. Ouais, je vais peut-être même pas comprendre qu'il est c'est une forme de vie.
Oui, tu veux dire, tu veux dire là en termes pour le coup de langage.
Oui, oui. En termes même de pensée même.
Ah c'est compliqué, on n'a jamais croisé, mais effectivement, ça risque d'être assez compliqué, vu comme on a du mal à décrypter des Égyptiens.
On a déjà même du mal à même les autres animaux, on les prend pour tu vois.
Oui, oui, des animaux ou même des êtres humains d'il y a quelques temps où on a perdu le dictionnaire, on ne pourra jamais absolument jamais se comprendre. À moins de les avoir en face à face. Là, je t'avoue que d'ailleurs, j'ai un peu simplifié le truc pour ce qu'ils se comprennent, parce que je ne voulais pas rentrer trop, de manière trop deep dans le langage. Et donc, du coup, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le langage qu'ils utilisent pour se parler, c'était une news qui est apparue il y a, je ne sais pas, un ou deux ans sur Internet, qui disait que deux IA avaient développé leur langage.
Ah oui, oui, Google.
Vous rappelez ça? Bon, ça s'avère être un peu pas totalement le cas, et quand on analyse un petit peu...
Ah, c'est vrai, c'est faux? Moi, j'y ai cru, moi.
Ouais, elles n'ont pas vraiment développé un langage. Enfin,
elles communiquaient entre eux sans qu'on puisse les comprendre, non?
Elles communiquaient entre elles sans qu'on puisse les comprendre. Ouais, oui et non. Enfin, c'est un petit peu complexe, il faut en rentrer dedans, mais... Disons que le titre « Deux IA inventent un langage pour ne pas être comprise par l'homme », oui, c'était un peu putaclic. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait rire et du coup, j'ai utilisé ce langage pour commun. En me disant que de toute façon, l'IA qui était venue sur Terre, elle avait pu le temps de venir et le temps de parler avec les autres IA pendant les 4 secondes, là, comprendre, apprendre plutôt le différent langage qui lui permettait de communiquer.
D'ailleurs, quand tu parles de 18 982 langues terriennes,
c'est du bluff.
C'est dommage que j'aurais adoré avoir le vrai chiffre, tant pis. Bah, je suis très déçu. Tant pis.
C'est du bluff et je pense qu'il y en a eu plus parce que je crois qu'aujourd'hui, il y en a quelque chose comme 7000.
Ah oui,
oui donc c'est déjà très huge. Quoi.
Ouais.
Mais est-ce qu'on compte le sartois? Est-ce qu'on compte tout ça comme
c'est un dialecte. Langage
c'est du coup.
Mais ça en fait partie. Ça fait partie de 7000.
Pidgin.
Est-ce que ça fait partie des 7000 langues ou pas?
Je pense que donc les dialectes, je pense qu'ils les comptent.
On dit souvent langue et dialecte d'ailleurs. Donc je pense que ça doit se tenir.
Ils doivent les compter.
Ok.
Super.
Et bah formidable, c'était très bien. On est très contents. Tu veux ajouter autre chose, Florian?
Non, pas du tout.
Vic, tu veux ajouter?
J'ai beaucoup aimé.
Tu veux signer?
Non, c'est bon.
Très bien.
Je m'étais noté des trucs, mais
Écoute, au pire, on en parlera dans la conclusion une fois qu'on aura parlé des trois trucs, des trois chroniques, et puis voilà.
C'est ça.
N'inquiétez pas, on va passer à Florian tout de suite.
Oui.
L'affaire des Bruno.
Messieurs, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe loin, très loin d'ici, et dans une langue que, je vous avoue, je ne comprends pas vraiment. Alors du coup, je l'ai fait traduire pour vous, pour nos auditeurs, afin de pouvoir vous la raconter. Le monde que je vous invite à découvrir va vous paraître très proche du nôtre, et pour cause, je vous la raconterai avec nos mots, notre langue. Mais comme toutes les traductions, celle-ci est imparfaite et transpose dans notre langage une réalité des concepts qui sont très certainement différents dans le leur de langage. Alors pardonnez certaines approximations, tournures de phrases et autres symptômes, et acceptez-les comme le reflet des différences culturelles entre notre race humaine et cette race alien.
Flash info. Encore un mort retrouvé dans Butcher's Alley. Clarice Desmond, avocat de profession, ne présente aucun signe d'agression ou de quelconque lutte. Le médecin légiste dépêché sur place n'a aucune réponse sur les causes de la mort. Les enquêteurs enquêtent, mais la population s'inquiète.
37. C'est le 37e que l'on trouve comme ça. Dans toute la ville, il y a des macabées qui tombent sur le pavé sans aucune raison. Ça claque dans tous les sens. Des femmes, des hommes, tout le monde est concerné. Moi, je gère plutôt les accidents de bagnole, des mecs qui crèvent de maladie, ou des femmes qui décident de s'éclater la cervelle à coups de 44 magnums derrière la glotte. C'est assez rare tout de même. Mais là, ça n'a rien à voir. Personne ne meurt comme ça. Et pourtant, ce n'est pas le seul. Le premier, on le retrouve sur les docks. La gueule ouverte, les asticots qui frétillent. Blanc comme un cul et la peau fripée, tu sais pas à quel point. Comme une prune qu'on met dans le jus. C'est pas possible, les gens fripent pas comme ça. Les gens, ça crève avec du sang autour du bec, des convulsions, des fractures. Mais là, on retrouve ni coup ni blessure. Pas de bleu sur la peau, pas de sang sur les vêtements. On essaie de comprendre du coup. On met nos meilleurs médecins, des enquêteurs qui savent faire comme il faut. Mais rien, on trouve que dalle et on pige que dalle. Alors on laisse tomber. Direction le ghetto. Au shop envoyé de seconde zone, quelqu'un d'insignifiant et on lui fait porter le chapeau. Et pas de secret, hein, c'est comme ça que ça marche ici. Mais tu parles. Là qu'on retrouve une deuxième prune. Allongée dans son appart, devant la cuisinière, une poêle à la main et du pop-corn qui recouvre le carrelage. T'imagines ? Le bougre se fait une soirée ciné tranquille devant la télé et là, paf ! Il casse sa pipe. Et pareil, on trouve aucune réponse. Pas de maladie apparente. Le mec, à part qu'il crève sans raison particulière, il est en bonne santé. Et un troisième, et un quatrième. Il faut que je retrouve cette ordure qui tue sans raison. Le chef est sur mon dos, et il me les hache menu. Les journalistes, ces crapules, grattent leurs bloc-notes et font des papiers sur le sujet. Alors bien sûr, la populace lit ça dans le journal et pète un câble. Et c'est normal. À vrai dire, je pense que je suis à deux doigts de me chier dessus aussi. Personne ne sait ce qui arrive, et personne n'a de solution pour l'empêcher. Ah, j'ouvre le journal. 38. 38 pruneaux morts de raison inconnue.
Flash info. Aperçu dans la région vallonnée du Lanarkshire. Sans raison apparente, le feuillage de la végétation environnante change de couleur pour passer du vert au rouge vif. La quasi-totalité des feuilles rouges sans tombe au pied des arbres et deviennent marron, liquide, odorante. Les agriculteurs de la région paniquent et les forces de l'ordre n'ont aucune réponse à leur apporter.
Même la nature se déglingue. Dans le rade, au bout de la rue, on dit que c'est lié. Les rivières qui se dessèchent, les falaises qui s'effondrent et se transforment en sable. Mais moi, je vois pas comment un gus qui mord la poussière peut avoir un lien avec des feuilles liquides qui puent. Buter des dizaines de gonzes, je veux bien. Faut être complètement tordu, mais pourquoi pas? Par contre, personne ne peut tuer la nature comme ça sans s'en rendre compte. Je marche dans la rue, à la recherche des réponses. Pff, comme si ça pousse dans le caniveau, les réponses. Je marche des blocs, comme ça. Je tombe par hasard sur un troquet qui me fait de l'œil. Et je décide d'arrêter de me torturer l'esprit. Je rentre, je tape le zing, le zig derrière le comptoir me jette un regard, je lui fais un geste, il me tend un jack.
Ça me dit vraiment la clope, le mec. Quel détective.
Je laisse mon esprit vagabonder et se faire aspirer à l'intérieur de la tasse. Je tombe dedans comme dans un puits, et là j'ai un flash, ou une absence de flash. Le trou noir, je l'oublie celui-là. Cette espèce de planète sombre qui bouffe l'énergie de notre soleil, je le regarde par la fenêtre à chaque fois que je fume une clope. Mais là, je suis sur une enquête, un banal accident domestique, où un pecno tue sa femme parce qu'elle le trompe. Et j'allume ma clope, je lève les yeux au ciel par réflexe, un truc étrange se passe. Le trou s'agrandit jusqu'à avaler le soleil. L'étoile s'éteint, se rallume. Un gros boom sonore, le genre qui souffle sur les gens et fait tomber les postiches. On a l'impression que notre planète se désintègre. Le sol tremble et les bâtiments vacillent sous l'impact de l'onde sonore. Je ferme les yeux à nouveau et les rouvre, et plus rien. Plus de trou noir, juste le soleil. Plus grand et plus lumineux. Je sors l'esprit du fond de mon jack. Une véritable révélation. Ils ont raison, les autres abrutis. Tout ça a bien un lien. Mais pas comme ils l'imaginent. Je lève la tête et regarde droit devant moi, sans vraiment réfléchir. Ce que je vois ne me surprend même plus. Encore un blaireau qui se transforme en pruneau. Des rides sous les yeux, les cheveux qui grisonnent. Le grain de beauté qu'il a sous le menton disparaît dans les plis du cou sans qu'il ne s'en rende compte. Mais attends, ce grain de beauté. Putain, ce pruneau, c'est moi.
Mon avis sur la mort de ces dizaines de personnes et sur la disparition soudaine d'une partie de la flore mondiale, je n'ai pas d'avis car il n'y a pas d'avis à avoir. C'est quelque chose qu'on ne peut empêcher, que nous n'avons jamais vu et que nous ne verrons jamais. Ce n'est pas quelqu'un ni quelque chose que nous cherchons. Nous courons après un concept. Un concept que nous n'avons jamais osé imaginer, et pour cause, nous n'en avions pas l'utilité. Il y a une force, certainement une dimension, peut-être, qui impacte l'univers, et qui a pour symptôme de pourrir nos chairs et nos plantes.
Je monte dans ma bagnole. Il faut que je parle à ce binoclard qui parle à la radio. Instinctivement, je regarde dans mon rétroviseur avant de démarrer, et je sursaute face à ce que je vois. Quelqu'un que je ne reconnais pas et pourtant que je connais si bien. Je sens la vis barrer. J'ai du mal à bouger. J'en chie à chaque pas que je fais. J'ai l'impression que la route est molle, et l'air, de la gelée. Mes clés. Où sont mes clés? Mais merde, je perds la boule ou quoi? Elles sont sur le démarreur. Il faut que je me dépêche. J'appuie sur la pédale, et je suis en dehors de la ville. Je traverse la campagne à toute berzingue. Je roule si vite que je ne vois plus sur les côtés de mon champ de vision. Attends, c'est la vitesse? Et merde, j'y vois que dalle. On m'appelle le faucon pourtant. Avec mon calibre, je suis capable de toucher un pigeon en plein décollage à plus de 300 mètres. Et pourtant, c'est à peine si je peux lire les panneaux. Si ça continue, je vais. J'écrase le frein. Il faut que je sorte. Ça tape dans le plastron. Je sens mon cœur qui cherche à se faire la malle. À genoux. Je suis à genoux. Je gère tout ce que mon corps contient. Je convulse. J'ai froid, j'ai chaud, je tremble. Et là, le calme. La sérénité. Le silence. Je m'allonge dans l'herbe. C'est assez ironique. Les nuages ressemblent à des pruneaux. Il s'étiole et découvre le soleil, débarrassé de son jumeau plein de vide. Je suis en colère et je ne sais même pas contre quoi m'énerver. Un mot. Il me suffirait d'un mot. Mais je disparais, sans savoir.
J'appelle ça le temps. Mes recherches le prouvent. Il y a bel et bien une dimension conjointe à l'espace qui se tord et se déforme. Elle est la mesure de l'évolution des phénomènes, ce qui change ou ne change pas. Le temps est partout et pourtant nulle part. Si nous ne le connaissons pas sur notre planète, c'est qu'il n'est pas de temps universel. Il est lui-même changeant en fonction de la place que l'on occupe dans l'espace. D'une manière que je ne peux expliquer, le trou noir influençate, bon, il faut désormais trouver un langage, et une mesure de ce temps. Disons influençate. Ce temps le figeate, le modelette de telle sorte que nous ne le subissions pas. Mais cette dimension, cette force, nous ne pouvons l'arrêter, car elle est l'essence de l'univers. Elle agit au plus profond de nos êtres, sur nos atomes, nos molécules, et les force à changer encore et encore, jusqu'à mourir de trop changer. C'est une funeste nouvelle que je vous apporte, d'apprendre que nous mourrons par la faute du temps, mais sans que vous nous le sachiez, c'est la force du temps qui donne de la valeur à notre vie.
Cette histoire que je viens de vous raconter est assez peu banale et traduite d'une langue dans laquelle le temps n'existe pas. Mais je ne vous ai pas vraiment dit la vérité quand je vous disais qu'elle se trouvait loin, très loin.
Tu te fous de notre gueule.
Car en fait, toute cette histoire... Non, je déconne.
Alors du coup, à quel moment tu t'es devenu un animateur de radio des années 80 à New York? À quel moment t'es devenu un enquêteur en train de fumer? Le château est enfumé.
Il a joué son rôle. Moi, j'étais impressionné. Hein.
Quel comédien!
Vous étiez dedans ou pas?
Quel acteur!
Et puis, bon choix de...
Premier rôle.
Les musiques étaient premier parfaites. Rôle. Non.
Bah merci beaucoup.
Je premier voilà. Comment dire jeune espoir directement quoi genre.
Je suis la caution théâtrale de ce podcast.
Ah bah forcément.
Je compense mon manque d'intelligence par ma présence hors norme.
C'est tout à fait ce que font les comédiens d'ailleurs. C'est exactement ça en plus. Alors du coup, déjà, moi, je voulais juste signaler que je voyais vraiment. Je pense qu'en effet, c'est aussi la musique. Je voyais complètement les aliens, l'alien en impair avec le chapeau qui marchait sous la pluie comme ça à la Rick and Morty, les tentacules devant et qui marchait genre l'affaire ne menait nulle part. Je ne savais pas où. Je voyais vraiment le truc.
Le chef est sur mon dos.
Ouais, c'est ça. Oui, justement, autre chose. Thématique langue et du coup, tu t'es donné à fond sur le vocabulaire des détectives. C'est-à-dire ouais. Que le il y avait tout, ils y étaient tous.
Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je me suis fixé comme contrainte extrêmement dure. Vous pourrez essayer, si jamais ça vous intéresse, de ne pas utiliser de termes temporels, de temps passé.
Ouais.
T'étais
au présent tout le temps. Ouais.
Tout le temps au présent, et genre, il n'y a pas de ensuite, il n'y a pas de ce genre de choses. C'est extrêmement dur d'écrire ça, en fait.
Mmh. Tu nous avais dit, quand tu étais en train de l'écrire, que c'était la merde parce que tu t'étais mis une contrainte bien chiante.
Et du coup, en fait, de la contrainte est née aussi l'enquête policière, parce que du coup, tu dois toujours être dans le présent, dans l'accumulation de phrases très courtes, etc. Et du coup, ça marchait plutôt bien.
Ouais. Ouais, du coup, c'est très descriptif. Il y a plein de romans qui sont écrits au présent en entier.
C'est efficace. Hein.
C'est efficace que tu es vraiment avec eux. Il y en a pas mal.
Mais c'est pas facile.
C'est plus dur et souvent les textes sont plus courts d'ailleurs. Les textes sont souvent plus courts. C'est moins narratif en fait. C'est plus tu vis la chose. Très intéressant. Et donc, du coup, on vient de se parler d'un monde. Ou en fait, ils n'avaient pas compris qu'il y avait le futur.
Il n'y a pas de temps, en fait. Est-ce qu'il y avait un trou noir à côté de chez eux qui figeait leur temps d'une certaine manière?
Voilà, mais du coup, il se passe un truc. Ça, j'ai pas compris quoi. Mais il se passe un truc qui fait que d'un coup, les gens vieillissent, parfois.
En fait, les gens ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Le trou noir disparaît.
Tu veux dire qu'on aura le droit à une autre enquête?
Non, mais le trou noir disparaît pour une raison obscure, si je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Et ce qui fait que du coup, en fait, le temps retrouve sa place sur la planète, ce qui fait que du coup, les gens meurent tout simplement de vieillesse. Tu vois, quoi. Les gens, la nature, etc. Et ça les surprend.
Les pruneaux.
Exactement, ils deviennent des pruneaux.
Ils connaissaient pas la notion.
Comme il disait, le mec est détective, mais il traite majoritairement que des accidents, des meurtres, ce genre de choses, parce que même si c'est rare...
Et donc du coup, quand ça arrive, il doit inventer le temps.
Enfin, il doit inventer un mot,
si ça t'arrive, tu peux juste pas comprendre quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que la notion de temps qui passe va expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas.
C'est compliqué.
C'est extrêmement.
C'est comme expliquer les couleurs à un aveugle.
Mais même là, du coup, dans le texte, on a l'impression que, vu que je parle au présent, on a l'impression que ça se passe en même pas une heure, alors qu'en fait, pour eux, ça se trouve, c'est des mois et des mois, parce que ils n'utilisent pas de temps, ils n'utilisent pas de repère temporel, tu vois quoi.
On ne sait pas combien de temps ça se passe. En effet.
C'est ça. Donc moi, j'imaginais que dans un monde, par exemple, où on n'a pas de temps, on pourrait définir, entre guillemets, l'enchaînement des événements par autre chose, peut-être par la distance, tu vois, ou genre de.
Bah,
genre
ouais, mais la distance, concept, forcément, c'est du temps. Typiquement, quand il prend sa voiture du point A au point B, c'est ça, tu vois.
C'est du temps, mais.
Le temps, y a la, enfin, la distance est reliée vraiment au temps quand même.
Parce qu'ils ont un temps pratique, tu vois, un temps d'enchaînement des événements, effectivement. Et donc, du coup, ils pourraient le traduire par la distance ou par un autre concept.
En fait ils ont un temps, mais ils n'ont pas de durée.
C'est ça.
Ils ont un temps, mais pas de durée, c'est ça. Je crois. Ça va, Florian, tu t'éternues là, non?
Non, ça va.
c'était très intéressant. En effet, et ça pose des questions, et tellement que ça pose des questions que j'arrive pas à la formuler dans ma tête. J'essaie de réfléchir à ce que ça fait un monde où il n'y a pas de temps. Bah, déjà, paye ta surpopulation.
C'est compliqué, et je me demande même si.
Je suis très pragmatique.
C'est rigolo que tu penses à ça, parce que je me demandais même si, où il n'y a pas de temps, où le temps ne passe pas réellement, ou quasiment pas, est-ce qu'on fait des enfants dans ce genre de monde?
Est-ce que la vie peut apparaître?
Est-ce que, vu que tu ne meurs pas vraiment, vu que ou si tu meurs, tu meurs d'accidents graves ou ce genre de choses, donc du coup c'est plutôt rare. Entre non, mais
est-ce que la vie peut apparaître avant même de parler de moi
ou alors elle si est le, apparue si avant
si
le trou noir.
Si le temps n'avance pas, il faut que la vie vienne d'ailleurs. Oui, t'as raison, la vie vient d'ailleurs. C'est ça. C'est la bonne réponse.
Ouais.
Waouh, j'ai mal à la tête.
Non, mais c'est compliqué.
Mais c'est... Alors, moi je me disais, du coup, ce qui pourrait aussi ne pas traduire. Comment dire? Le fait qu'ils n'utilisent pas d'éléments temporels pourrait aussi se traduire par le fait que leur planète tourne autour, parce que ça m'a toujours intéressé, tourne autour du Soleil à l'exacte vitesse qui compense la rotation sur elle-même, ce qui fait que du coup, la face éclairée de la planète est toujours la même, tu vois, comme la Lune.
Bah comme la Lune chez nous,
c'est ça.
Mais du coup, il y a quand même du temps, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte que le temps passe.
Ils ne se rendent pas compte que le temps passe. En tout cas, ils ne passent pas du tout de la même manière.
Par la force des choses, tu as raison, qu'ils sont avec la rotation de leur. Même si le temps ne passe pas. Ouais. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est pas possible.
Ouais.
En vrai, je suis en train de faire mon chemin de pensée, ce n'est pas possible.
En vrai, c'est pas possible.
Et puis même en étant près d'un trou noir, ça ne serait pas plus possible.
Non, c'est purement fictif, parce que si le temps était figé, le temps est figé tout court.
Figé. Oui. Mais, et donc du coup, t'as pas toute cette histoire.
C'est ça.
Et t'as pas besoin de langue.
Non. Et du coup, bon, voilà, désolé.
Non, au contraire, c'était très bien. C'est l'intérêt. C'est tout l'intérêt.
En tout cas, au-delà de l'histoire, au-delà du fond. La forme était vraiment très originale. Moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, César, meilleur espoir.
César du meilleur espoir masculin.
Du podcast.
Du podcast. Donc, ça limite quand même, mais c'est bien.
C'est déjà pas si mal. Moi, je prends. C'est toujours plus que mes 30 centimes par chronique des
questions. Que tu n'as toujours pas vu, tu as remarqué.
Je n'ai toujours pas vu pour l'instant. Quoi.
Prépare-toi, je pense que tu ne vas pas aller voir.
Et puis, effectivement, il y avait un peu d'acteur studio au moment où il dit je m'allume une clope.
Mais oui, le moment où tu as vraiment allumé la clope, c'était.
Non, mais on sent que tu es de l'école un peu. Enfin, tu vois, tu vas au fond des choses. Je pense que quand tu rentreras chez toi ce soir, tu seras encore dans la peau de ce putain d'enquêteur.
À la Jim Carrey, tu sais. On va passer 15 jours jusqu'à l'épisode prochain. Il sera dans le rôle. Il va rentrer chez lui. Salut, chérie. L'enquête tourne rond. Bref. Ok, bah voilà. Est-ce que tu veux une question, Vic, peut-être?
Non, pas spécialement.
Alors, Florian, t'as envie de conclure, là?
J'ai envie de conclure. Passons à la conclusion.
Florian, avant que tu conclues.
Ah, attends, justement. Avant que tu me dises, non. Florian, avant que tu conclues, j'aimerais dire, comme d'habitude, Adrien risque de me couper la parole. La preuve. Ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, je vais te demander de finir mes phrases.
Je me suis fait inception. Oui, sauf que, du coup, je veux bien. Mais par contre, moi, ce que je voulais faire, c'est avant que tu conclues,
vas-y.
J'aimerais bien que tu conclues dans la peau de ton inspecteur.
Ah oui.
Ah.
Ça va être difficile.
Comme d'habitude, Adrien va me couper la parole.
Ah, t'as parlé au futur?
Oui, mais attends, dans la peau d'un inspecteur, pas de l'inspecteur de la planète, ça va, on va non plus. Comme d'habitude, Adrien va me couper la parole. Donc du coup, je vais demander de finir mes phrases. Comme ça, il me coupera la parole, mais de manière utile. Adrien, sur Facebook, il faut...
liker.
Et sur iTunes, il faut, les auditeurs, que vous...
mettiez des commentaires, bande d'abrutis.
Et 5 étoiles aussi.
Et 5 étoiles aussi.
Je vais t'aider parce que je crois que t'es pas trop concentré.
Nous avons aussi un Spotify
sur lequel vous pouvez nous écouter.
Et vous abonner. Et que pensez-vous de YouTube sur lequel...
vous pouvez mettre des pouces multicolores.
Et sur lequel il y a personne.
Aussi.
Je sais pas si on a eu un seul pouce, mais il faut qu'on aille voir. Mais bon.
Moi j'en ai mis.
Et du coup, après cette conclusion, on va faire comme d'habitude un petit quiz.
Ouais,
allez,
un quiz linguistique.
Épisode sur les langues. Nous allons faire un quiz linguistique.
Enfin, on va s'amuser.
Et nous avons en face de moi, nous avons l'équipe Patrick à ma gauche.
Ouais.
Donc qui est
composé de Vic.
Et l'équipe Sébastien sur ma droite.
Ouais.
Oh. Composé de Thomas.
Faites tourner les.
Le pouce bleu. C'est pas ça.
Et aujourd'hui, je vais vous demander si ce sont des mots français, donc des mots qui sont vraiment dans le dictionnaire, etc., ou pas.
Ouais.
Tout simplement, vous allez me dire vrai ou faux. Je vais vous donner le mot. Si vous voulez, je peux vous donner la définition. Et vous allez me dire c'est français ou c'est pas français.
C'est français, monsieur.
On va commencer, par ça. Tiens, on va commencer par l'avocette.
C'est pas français.
L'avocette, c'est un oiseau échassier palmipède de la taille d'un faisan et dont le long bec est recourbé vers le haut.
Non, c'est pas français.
Sébastien ?
Sébastien, c'est pas français.
Pas français, ouais. C'est français.
Oh, God damn it.
Un point pour l'équipe.
J'ai préféré te laisser avec.
C'est la technique de Vic, c'est qu'à chaque fois, il me laisse donner des mauvaises réponses pour marquer des points.
Et à la fin, gagner.
On va enchaîner avec le deuxième mot. Le mot, c'est nique tes mères.
Patrick, pas français.
C'est français.
Si, c'est français.
Nique tes mères. Nique tes mères, c'est un mot français. Tout attaché, N-Y-C-T-E-M-R-R-E. Qui veut dire durée de 24 heures comprenant un jour et une nuit et correspondant à un cycle biologique.
J'aurais dû voir le piège.
Non, mais en plus, je crois
c'est improbable, non ?
Ouais, ça ressemble à Nyctalope, quoi.
Ouais, c'est pas faux.
Parce qu'il n'y a pas de lien, vraiment, mais.
On a le mot dormioter.
Non.
Vas-y, Sébastien.
Non, la réponse est non. Sébastien, non. C'est Sébastien, non. Moi ?
Tout à fait, oui.
La réponse est.
Ce n'est pas français. Oui,
donc 2-1 pour les Sébastien.
Ouais, c'est parce que c'est logique en même temps. Il a construit son quiz français, deux français. Forcément, le troisième n'était pas français.
Bah,
c'est
forcément. Bah,
si, j'ai pas construit en fait. J'ai une liste de mots français, une liste de mots pas français et je choisis au hasard.
Très bien. Ouais.
Donc démerdez-vous avec ça. Et la glossolalie.
Français. C'est
français.
Patrick, c'est français. C'est un truc sur le fait de parler une langue que tu ne connais pas. Pas ou c'est ceux qui se réveillent qui parlent d'autres langues ou des langues.
C'est les gens qui sont possédés par le démon.
C'est ça.
C'est exactement ça. Bravo. Et donc un point de plus pour l'équipe Patrick, ça nous fait donc 2-2. La kyonosphéréphilie.
Sébastien, ça existe à tous les coups. Ça doit être genre les gens qui sont attirés par les teckels ou un truc comme ça.
Alors ça existe effectivement, ouais. Donc ça fait 3 points pour.
C'est quoi on peut savoir?
Pour l'équipe Sébastien, c'est la passion. De collectionner les boules de neige.
Ah, c'est
une bonne collection, mais faut avoir quoi les stocker. Quoi.
C'est vrai. Ouais. Nous avons le terme l'eau cassée.
Non, je pense que c'est un piège. Faux. Réponse Sébastien, faux.
Faux.
Ouais.
Alors, c'est effectivement un piège, c'est un mot inventé par Astérix.
Eh ben, bravo.
Qui le fait d'être loquace.
Il y a 4-2, mon gars. T'es pas bien.
4-2. T'es en retard.
T'es en PLS.
L'équipe Patrick est en retard.
Il y en a encore beaucoup parce que là,
PLS, Patrick, pas français.
Si, c'est français en plus.
Un chronyme pourri.
Le terme Jocondé.
Français. Pas français.
Équipe Patrick, quelle est votre réponse?
Pardon, tu peux répéter?
Non, non. Alors, il a dit français, donc c'est français.
Équipe Patrick, le terme Jocondé, c'est un verbe. Jocondé.
Français.
C'est français?
Ouais.
C'est pas français.
Oh,
c'est un naufrage. Ça veut dire sourire avec un air idiot, virgule, comme la Joconde.
Mais du coup, ça veut pas dire.
Parce que ça veut pas dire.
Non, c'est un faux terme inventé par un auteur qui s'appelle Henri Toya.
Mais mec, pas dans le français est destiné à évoluer.
Oui, parce que là, tout existe.
Non, mais c'est le seul. C'est le seul à utiliser ce terme. Il l'a inventé dans un bouquin.
C'est la langue. La langue, sa vie. Vous l'apprendrez.
Ce n'est pas un terme présent dans le dictionnaire usé par tout le monde.
D'accord. La langue française évolue bien.
C'est
plus
comme dormioter. J'imagine que quelqu'un sur Terre a déjà dû dire dormioter, tel que moi, par exemple. Et c'est pas pour ça que ça appartient à la langue française.
Les baignouches.
Comme les baignouches. Non, les baignouches, quoi.
Baignouches, ça existe. Hein. Non, ouais. C'est pas vrai, j'ai inventé le mot.
Nous avons le terme sternutation.
Bon, c'est vrai, ça existe. Ça.
On fait moins les malins. Hein. Donc, équipe Sébastien, pour l'instant, on est à combien? 4-2
5-2.
5-2
Non, 4-2 et là, 5-2.
Non, 5-2, mon gars. Les auditeurs le savent. Merci.
Donc avec ça, ça va donc faire. Un sixième point pour l'équipe Sébastien.
Je pense qu'on peut s'arrêter là, alors.
Et c'est le fait d'éternuer de manière très rapide. C'est une série d'éternuements.
Ah, c'est l'éternuement mitraillette.
Et voilà, c'est tout pour ce quiz. J'espère que ça vous a bien fait marrer et que surtout, Thomas va choisir la chanson de fin.
Je sais pas, rien, je te laisse choisir parce que je suis fair play. Je suis fair play, qu'est-ce qui te fait plaisir?
Ouais, je sais pas, là. On va faire la chanson qui a bien marché. Hein.
Toujours la même? Très bien, non, mais... toujours la même.
Je pense que c'est une bonne chanson de fin.
Allez, oh, c'est vrai que c'est une chanson de fin.
Bien sûr.
Allez, salut les petits loulous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve dans deux semaines, allez les garçons, ça m'a fait plaisir.
Pour l'épisode 10.
N'oubliez pas de proposer vos thèmes.
Vous le voyez pas, mais là on est tous assis à l'envers sur nos chaises. C'est-à-dire qu'on met les dossiers devant parce que ça nous rend un peu cool. Parce qu'on est restés jeunes, on a des blue jeans et des Nike. Allez, lâchez des pouces bleus, on se retrouve la semaine prochaine, bisous.
Lâchez des cœurs.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao.
On dit lâchez des pouces bleus. Crazy.